Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
Bonne journée à vous tous qui nous écoutez, il est 7h45. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, Brune Poirson.
Bienvenue dans ce studio et bonjour Brune Poirson.
Bonjour Elisabeth Martichoux.
Merci d'être avec nous. Vous étiez en Seine-et-Marne auprès des sinistrés vendredi dernier. Rappelez-nous, quand les zones touchées seront-elles déclarées en état de catastrophe naturelle ?
Le plus rapidement possible. C'est vraiment l'objectif du gouvernement. C'est pour ça que mon collègue Gérard Collomb a annoncé qu'il allait réunir de façon anticipée la commission qui décide de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Vous savez que normalement, on attend la décrue pour pouvoir constater l'ampleur des dégâts, malheureusement, et ensuite déclarer l'état de catastrophe naturelle.
Vous avez dit l'Assemblée nationale, vous avez dit qu'il faut attendre la décrue, donc ça va prendre un peu de temps.
C'est initialement la façon dont, normalement, nous travaillons. Mais là, face à l'ampleur malheureuse des événements que subissent beaucoup de nos concitoyens, nous avons décidé d'entrer en procédure accélérée. Et donc, d'ici mi-février, nous aurons reconnu certaines zones comme étant en état de catastrophe naturelle, de façon à pouvoir accélérer
la prise en charge des frais et des indemnisations. Qu'est-ce que vous conseillez aux particuliers de faire les déclarations tout de suite, sans attendre ?
De faire les déclarations tout de suite, sans attendre, sachant que, bien évidemment, certains ne peuvent pas toujours, vu malheureusement l'état de leur maison et de leurs habitations. Et donc c'est aussi pour ça que Bruno Le Maire, vous savez, Bruno Le Maire, il y a une semaine, jour pour jour, a réuni à Bercy les assureurs pour leur demander de faire preuve de bienveillance et d'allonger les délais, en tout cas de comprendre la situation difficile dans laquelle se trouvaient beaucoup de ménages actuellement en France.
Alors beaucoup de ménages, Brune Poirson, sont en zone inondable, c'est un fait. Ils seront indemnisés au même titre que les autres ?
Ça dépend des endroits, encore une fois, on ne peut pas généraliser, ça dépend des zones. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il nous faut développer ces plans de prévention du risque inondation. C'est ce qu'on appelle les PPRI, c'est ce que met en place mon ministère. Nous avons étendu cette année, et nous allons le faire à l'avenir, à 2000 communes supplémentaires, parce que l'objectif, c'est de mieux maîtriser l'urbanisation dans des zones qui sont potentiellement inondables.
Le gouvernement envisage des aménagements, par exemple, de la Seine pour prévenir ces catastrophes pour certaines communes ?
Absolument.
Vous travaillez sur un plan particulier ?
L'État sera aux côtés de ces communes, de certaines communes, de façon à les aider, par exemple, à construire des digues ou encore à créer des zones refuges.
Des digues, mais on continue de construire en zone inondable.
Ça, vous savez, l'État n'a pas la maîtrise du détail des zones où peuvent être construites. Ce n'est pas l'État qui décide in fine, mais nous travaillons main dans la main avec les collectivités locales pour déterminer ces zones-là. C'est ce que nous faisons. Et l'objectif, de toute façon, c'est de, bien évidemment, maîtriser cet urbanisme.
Mais c'est l'urbanisme qui est responsable. C'est l'urbanisme qui est responsable de ces inondations. Non, c'est le bétonnage ou ce sont les agriculteurs, on l'a entendu, qui rendent les sols imperméables.
Mais la situation, elle n'est jamais noire ou blanche, il n'y a jamais malheureusement une cause qui soit responsable, ça serait quelque part trop facile. On est vraiment dans une conjonction de facteurs. On sait que l'artificialisation des sols se développe, c'est-à-dire les constructions. On sait aussi que malheureusement notre climat change et que nous rencontrons et nous voyons beaucoup plus d'événements climatiques violents que ce que ça pouvait être le cas auparavant, au siècle dernier par exemple. Et donc c'est cette conjonction d'ensemble de facteurs. Et c'est pour ça qu'il nous faut anticiper, c'est d'ailleurs tout l'objet de ces plans de prévention du risque d'inondation dont je parlais précédemment.
Donc le réchauffement climatique, le bétonnage, l'urbanisation, les agriculteurs qui sont parfois rendus responsables, je vous demande, parce qu'ils se sont sentis un petit peu effectivement mis en accusation dans cette affaire.
Moi, écoutez, je ne pense pas qu'on puisse dire que les agriculteurs soient responsables de la situation actuelle, absolument pas, non.
Une image accompagne ces inondations, Brune Poirson. Plus de 200 tonnes de déchets bloqués à l'écluse des Yvelines. Ils viennent d'où ces déchets ?
Malheureusement,
cette mer de déchets là, sur surface limitée, mais impressionnante comme image.
Vous savez, je crois que initialement, ils viennent de notre et c'est un constat un peu triste, mais de notre faible, en tout cas, de notre...
Vous cherchez vos mots, alors le maire de Méricourt, vous allez voir, il les a trouvés, il a qualifié de salopards ceux qui ne cessent de jeter des déchets dans la Seine. C'est quand même désolant de voir ça au 21e siècle. Vous aussi, vous dites salopards ?
Non, je n'utiliserai pas un mot comme ça, je crois que, et on le sait, la performance de la France en termes de recyclage, en tout cas en termes de collecte et de recyclage des déchets plastiques, elle est insuffisante. Et de même pour les canettes. Vous regardez, les canettes en aluminium, par exemple, il y en a uniquement 45% qui sont collectées et recyclées. Pour les bouteilles en plastique, c'est 60%. Très concrètement, hein, ce que ça veut dire, c'est que les ménages français, ils consomment 335 000 tonnes de bouteilles et de canettes. Ça, c'est l'équivalent
par an.
Ça, c'est l'équivalent de
335 000 tonnes de canettes et bouteilles plastiques.
C'est l'équivalent de 9 900 poids lourds. C'est-à-dire que, en gros, si vous les mettez...
On est un peu dans l'abstraction.
Si vous les... Soyons très simples. C'est que si vous les mettez les uns derrière les autres, eh bien, ça, c'est l'équivalent d'une distance entre Paris et Orléans. Voilà, ça. C'est ça la réalité.
Par an, en canettes et en bouteilles plastiques.
C'est ça la réalité de notre consommation.
Et combien sont collectés et donc recyclés potentiellement ?
Environ 40%.
40% pour les canettes.
Pour les canettes, 45% uniquement. Et donc ce sont des taux qui sont trop faibles. Et quand on voit, et le président de la République et le Premier ministre sont bien conscients de cette situation-là, et ils nous ont fixé des objectifs très ambitieux. L'objectif, c'est de recycler 100% des plastiques d'ici 2025. C'est ça les objectifs qui nous ont été fixés. Et donc c'est pour ça que au ministère de la Transition écologique et solidaire, nous avons mené, et nous sommes en train de le faire, une grande concertation, une consultation avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés. Par exemple les éco-organismes, les collectivités locales, les associations de citoyens, pour essayer de trouver des solutions pour changer ce système-là qui fonctionne mal, on le sait.
Alors les solutions, on en parlait ce matin sur RTL, Virginie Garin l'a évoqué dans sa chronique, c'est le retour de la consigne, si je puis dire. La vieille consigne qu'on avait connue pour les bouteilles en verre, vous dites on pourrait le faire pour les canettes et les bouteilles en plastique, c'est le même principe qu'avant, on paye plus cher et on est remboursé au retour.
Non, on ne paye pas plus cher, le coût sera neutre, mais déjà laissez-moi, je vais détailler ça. Mais déjà, laissez-moi vous dire que nous sommes seulement dans une phase de consultation. C'est-à-dire qu'on regarde quelles sont les options. Moi, je suis en train de me concerter, en tout cas, je l'ai déjà fait, mais je continue de dialoguer et de rencontrer des représentants des grandes surfaces, de la grande distribution, des collectivités. Et nous en discutons ensemble. Et une des options qui a été proposée aussi par des citoyens, puisque c'est une des grandes mesures phares qui est ressortie de la consultation en ligne que nous avons lancé à la fin de l'année dernière, c'est la consigne. Sous quelle forme ? Eh bien, tout simplement, si vous, Elisabeth Martichoux, vous allez acheter, par exemple, une bouteille de soda ou une canette de soda, eh bien, il y aurait... qui ferait partie du prix intégral de votre bouteille ou de votre canette de soda, une caution. Et cette caution-là, elle pourrait varier, par exemple, entre 0,5 et 25 centimes d'euros. Et une fois que vous avez consommé cette boisson-là, si vous rapportez la canette ou la bouteille en plastique, eh bien, la caution vous est rendue. Et donc, c'est un coût qui est neutre.
Donc, si on revient, si on rapporte, c'est une opération blanche
vous avez le choix.
Pour les consommateurs.
Absolument.
Hein en Allemagne, ça existe depuis des années. Il y a un taux de retour de combien ?
En Allemagne, ça fonctionne très bien. On a 90% en moyenne, ça dépend des endroits, mais surtout on est à des taux de satisfaction qui sont très élevés. Au départ, les Allemands étaient un peu sceptiques, on l'a vu dans les études, et maintenant, plus de 80% de la population allemande est satisfaite de ce système-là.
Alors ça, c'est une consultation, votre feuille de route vous arbitrerez fin mars, je crois. Il y a d'autres consultations d'ici là, d'ailleurs, sur d'autres sujets qui vont être lancés.
Ce sera sur le thème de ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour en France utiliser le déchet comme véritablement une ressource et la source d'autres produits plutôt qu'ils finissent incinérés ou en décharger. Donc nous voulons un changement qui soit systémique parce que nous voulons atteindre les objectifs ambitieux que nous ont fixés le président et le Premier ministre. Et donc, nous consultons sur un ensemble de mesures, de très nombreuses. Je vous en parlerai plus tard. Par exemple, ça peut être la question de l'obsolescence programmée, la durée de vie des produits. Ça, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons aussi également.
Et vous allez annoncer dans quelques jours donc, d'autres consultations sur ces sujets.
Absolument.
Autre chose, Brune Poirson, vous êtes élue dans le Vaucluse.
Oui.
Vaucluse, vous avez gagné une circonscription FN en juin.
Oui.
Vous y retournez vraisemblablement. Oui. Qu'est-ce que vous percevez de l'état d'esprit loin de Paris? Le président des riches, ça a pris dans l'opinion?
Non, vous savez, je crois que souvent ça, c'est un petit peu une expression qu'on entend beaucoup, que moi j'entends beaucoup à Paris. Moi, ce que je vois quand je vais dans ma circonscription, c'est que les gens sont satisfaits parce qu'ils voient que les choses changent. Ils voient qu'il y a un mouvement. Ils voient aussi et surtout ce qu'ils n'ont pas vu depuis des années et des années. Ils croyaient que même que ça n'existait pas en fait, que c'était que c'était en contradiction avec la politique. Ils voient que quand on dit quelque chose, eh bien, et qu'on le fait derrière, eh bien, c'est une réalité. C'est la réalité de ce gouvernement-là.
Vous ne repeignez pas tout en rose, là.
Non, je ne repeins pas tout en rose, non. Et je ne vous dis pas que tout est parfait et que l'ensemble des Français vit sur un petit nuage rose. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a des choses qui changent, et ça, ouais, les Français le reconnaissent. Et ils reconnaissent aussi qu'il y a une cohérence entre ce qu'a dit le président de la République, le candidat, ce que dit le gouvernement et ce qui se passe dans les faits.
Dernière question, Brigitte Bourguignon, députée La République en Marche, pardon, La République en Marche, sur la trentaine ce matin, demande une augmentation de la prime d'activité. Est-ce qu'il faut un virage social du gouvernement ?
Nous sommes un des gouvernements qui a fait le plus en matière de pouvoir d'achat. Au 31 janvier, les Français ont vu ça, c'est une réalité sur leur fiche de paye. Vous savez aussi, par exemple, que nous allons supprimer la taxe d'habitation pour 8 personnes, 8 Français sur 10, d'ici la fin de l'année.
Les Français ne le voient pas encore.
Ce sont des mesures concrètes. Après, sur la question spécifique qu'évoque Brigitte Bourguignon, eh bien à ce moment-là, ce sont mes collègues Gérald Darmanin et Bruno Le Maire qui pourront explorer ça. Mais je peux vous dire que nous avons fait énormément et que nous continuons à faire en faveur du pouvoir d'achat des Français.
Brune Poirson qui dit « Il n'y a pas de problème de pouvoir d'achat en France et les Français sont satisfaits ». Merci beaucoup à vous d'avoir été ce matin dans le studio d'RTL.
Ce sera l'objet de notre débat à 8h22. La promesse de hausse du pouvoir d'achat est-elle tenue avec nos deux invités? Brune Poirson qui vient d'annoncer une procédure accélérée de l'état de catastrophe naturelle en accord avec le ministre de l'Intérieur. Gérard Collomb. L'entretien est à retrouver dans son intégralité sur le site rtl.fr.